Et bonjour à tous, bienvenue dans Carrément Immo. Vous le savez, Carrément Immo, c'est votre émission hebdomadaire, l'émission où on décrypte les grandes mutations du monde immobilier, évidemment, chaque semaine avec ceux qui les vivent au quotidien. Aujourd'hui, on entre dans la tête des locataires, c'est le cas de le dire. Moins d'implantations tertiaires, des bureaux repensés, des surfaces réduites, mais aussi des nouveaux critères de choix, hein, que ce soit l'accessibilité, le coût par collaborateur, la performance environnementale. Voilà, on va poser la question, où en est le bureau en 2025? Est-il devenu un lieu social, un outil RH ou justement une simple variable d'ajustement économique? Alors pour en parler, deux invités aux visions complémentaires. Vous savez que c'est un peu le concept, le principe de cette émission. Hein. Deux invités viennent croiser leurs regards. Frédéric Goupil de Bouillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ADI, l'Association des directeurs immobiliers. Et Jean-Marie Sellerier, bonjour.
Bonjour.
Directeur exécutif transformation de La Française. Alors, est-ce que vous pouvez déjà brièvement nous parler de ce baromètre? C'est un baromètre que vous venez de sortir, hein, qui a lieu donc tous les 3 ans. Et peut-être vous, Frédéric, vous êtes un...
Le baromètre, c'est un baromètre que l'Association des directeurs immobiliers réalise maintenant pour la 3e édition.
Ouais.
Le premier était en 2019, juste avant un événement. Et le second en 2022, donc qui a pu tirer les conclusions de cet événement, de cette pandémie. Et là, 2025, c'est voir quelles sont les grandes tendances. Ce baromètre que l'on fait donc avec EY, avec La Française, ouais, et avec Euroméditerranée, qui sont nos sponsors et qui nous soutiennent dans cette démarche, justement pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché du bureau tertiaire et comment les utilisateurs le vivent.
Donc, c'est réalisé auprès des dirigeants d'entreprise, hein,
alors,
c'est ça?
Alors, on a pris des dirigeants d'entreprise, essentiellement des directeurs immobiliers ou, oui, des directeurs généraux, puisque dans certaines entreprises, il n'y a pas forcément un directeur immobilier. C'est le directeur général ou le directeur, oui, financier ou le DRH qui s'en occupe. Donc, on a pris 220...
En fonction de la taille de l'entreprise, j'imagine.
Pour avoir un directeur immobilier, il faut avoir une surface relativement importante, plus de 100 000 m² à peu près, pour pouvoir le faire. Donc, sinon, dans d'autres cas, ce sont les dirigeants naturels de l'entreprise qui le font. Donc, on a interviewé, EY a interviewé pour nous plus de 200 cadres dirigeants qui ont pu donner leur tendance à travers ce baromètre.
Alors, moi, j'ai 282 pour être précise.
282.
Globalement, pourquoi tous les 3 ans?
Parce que c'est pour se donner un rythme, pour avoir quand même un certain recul.
Pas chaque année, c'est compliqué à faire.
Chaque année, il n'y aurait pas vraiment des grandes évolutions,
des
grands changements. Vous auriez fait ça entre 2019 et 2022. 2021 n'aurait pas apporté grand-chose. Non, c'est pour se donner des marronniers tous les 3 ans. Comme ça, on peut parler de ces grandes mutations, de ces grandes évolutions que subit le monde de l'immobilier de bureau.
Alors... rapidement, en quelques mots, depuis 3 ans, comment ça se passe? Quelles sont les grandes mutations?
Les grandes mutations, on a vu, avant 2019, on était dans un marché plutôt de l'offre de bureaux. Il y avait vraiment un marché sur lequel, et qui avait été le cas depuis les années 2000, où les utilisateurs étaient à la recherche de bureaux. Il y avait une tertiarisation importante de l'économie qu'on a vécue depuis les années 2000, qui se matérialisait dans le bureau.
Ouais.
Cet événement qui a été la pandémie et une tendance qui était de fond, qui est devenue la règle, qui était le télétravail.
Ouais.
On voyait monter, avant le Covid, on voyait monter la tendance du télétravail, la tendance de l'informatisation, de la digitalisation, qui faisait que le bureau...
C'était déjà en cours avant le Covid. Hein.
Depuis 2007, par exemple, vous avez ce fameux portable, ce fameux téléphone, ce smartphone, qui fait que maintenant, vous partagez vos informations de façon digitale et non plus de façon papier. Le bureau est né de l'obligation qu'avaient les entreprises de partager l'information, et cette information, la partager sur du papier. C'est vrai qu'avec l'informatisation et la digitalisation, on voyait qu'on pouvait travailler n'importe où. Mais ça n'était pas dans les mœurs des entreprises. Il y avait encore, on nous demandait à nous, directeurs immobiliers, de mettre un bureau à chaque salarié. L'arrivée du Covid, l'arrivée du télétravail forcé pour des raisons sanitaires a fait que beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés se sont dit « mais c'est pas mal de travailler à la maison, ça apporte certains avantages ».
Alors, on en reparlera. C'est vrai que ça dépend. Hein. Ça dépend des employés, ça dépend des entreprises, ça dépend des...
Il y a beaucoup de variables. Mais C'est devenu un fait, on peut travailler à la maison.
C'est possible. En
fait. Voilà, la possibilité existe. Et bien ça, tout de suite, on l'a vu en 2022, beaucoup d'interrogations. C'est quoi le bureau maintenant? Est-ce que le bureau, c'est plus là? C'est la maison? Est-ce que, comme on le dit assez facilement, la maison est devenue le principal concurrent du bureau? 2025 le confirme.
Alors vous, Jean-Marie Salarié, côté, j'ai envie de dire, investisseur, gestionnaire d'actifs, comment vous percevez justement ces mutations, ces changements d'usage dont on parle ?
Alors, peut-être un rapide mot de la française pour comprendre quelle est notre posture. Hein. Nous sommes l'asset manager du Crédit Mutuel et la française REM, Real Estate Manager, donc l'asset manager immobilier. Et donc, à ce titre, on a deux types de clients. On a les clients investisseurs qui nous confient 30 milliards de capitaux à ce jour. Et puis, on a un deuxième grand client qui est le locataire. Et pour le locataire, nous collectons aussi quelque chose, on collecte les loyers et dans notre cas, on collecte un peu plus de 1 milliard d'euros de loyers tous les ans. Donc ça signifie déjà qu'on a un très grand client, mais il n'est pas du tout unique. Il n'est pas du tout unique pour une première raison, c'est que déjà on a différentes typologies d'immobilier. On fait du bureau à 60% à peu près, mais on fait aussi de la résidence étudiante, de la résidence senior, de la maison médicale et plein d'autres choses, de la logistique notamment et autres. Donc ça déjà, ça veut dire qu'en face de nous, on peut avoir des dirigeants d'entreprise, mais on peut avoir aussi des directeurs d'exploitation de cliniques ou d'autres choses. La deuxième chose, c'est que on a un patrimoine, dans notre cas, qui est extrêmement diversifié et qui va du grand siège social à Paris ou proche jusqu'aux locaux d'activité en banlieue de Toulouse. Donc, ça signifie qu'on a toute la diversité des directeurs immobiliers, soit parce qu'ils ont ils sont directeurs immobiliers, soit parce que ce sont des DG de PME. Et à travers ça, ça signifie des diversités de besoins, des diversités aussi de façons de réagir à ce qui s'est passé, le Covid en premier lieu, et puis des diversités sur la capacité à se projeter dans les méga-tendances. On va revenir sur le télétravail, mais je vous donne un autre exemple qui est très important pour les entreprises, c'est la perte d'engagement des salariés, qui a plein d'implications. C'était un peu avant,
Suite au Covid,
sens, en fait.
Ouais. Trouver du sens à son quotidien, à ses tâches, on va dire.
Alors nous, on n'est pas des experts de ça. Ouais. En revanche, ce qui est essentiel, et encore plus avec le marché tel qu'il se transforme aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute, de comprendre, de creuser. Et c'est ce que nous permet ce baromètre. Et quel meilleur partenaire que l'ADI pour le faire. Et nos partenaires, et aussi Barbara qui était à la manœuvre sur le sujet, pour creuser au maximum ces sujets et esquisser des réponses.
Alors justement, on va parler du baromètre. On constate une baisse continue des implantations tertiaires depuis 2022. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du bureau tel qu'on l'a connu ou est-ce que c'est simplement une recomposition ?
Moi, je verrais plutôt une recomposition autour, en effet, d'un besoin moindre en termes de mètres carrés, mais par contre, un besoin beaucoup plus fort en termes de collectif. Si vous refaites l'histoire du bureau, vous allez du bureau fermé, qui était une petite pièce avec votre bureau à l'intérieur, jusqu'à la grande cathédrale bénédictine où il y avait 200 collaborateurs dans une grande pièce qu'on appelait l'open space. Voilà. Là, je ne vais pas dire qu'on va aller, on va retourner vers le bureau fermé, mais on va retourner vers une sorte de une plus grande proximité, une plus grande volonté de pouvoir s'isoler, soit pour faire une réunion, soit pour faire des audios. Maintenant, l'audio devient quasiment la règle de la réunion, ou se retrouver ensemble. Ce n'est pas forcément un lieu où vous allez nécessairement y aller pour travailler au sens produire ou quelque chose, ça vous pouvez le faire de n'importe où, mais ça devait devenir un lieu beaucoup plus de collectif.
Donc un lieu de rencontre avec
un lieu de rencontre, de social, de collaboration avec. Et donc ça pousse, et vous le voyez très bien dans le baromètre, ça pousse vers des lieux d'implantation qui sont faciles d'accès. Les gens vont vouloir pouvoir se réunir à tout moment et donc y aller facilement. Puisque maintenant, la règle n'est plus « je pars le matin, je vais à mon lieu de travail et le soir, je reviens ». Je veux aller au bureau, pourquoi pas deux fois dans la journée et en ressortir pour aller faire autre chose. Donc, vous voyez déjà ce besoin d'accessibilité, ce besoin de lieu de rencontre, ce besoin de proximité. Et surtout, comme je le disais, comme le bureau, son principal concurrent devient la maison, si votre bureau n'offre pas les mêmes aménités que la maison, Ben, mettez-vous la tête, dans la tête du collaborateur. Si j'ai le choix entre aller au bureau ou rester à la maison, si je n'ai pas de plus-value à aller au bureau, je vais vite arbitrer.
Alors là, vous avez parlé des nouveaux usages. Est-ce qu'on peut mettre aussi sur la table le côté rationalisation financière des entreprises?
Alors, il est clair que quand vous êtes un directeur immobilier, que vous devez expliquer régulièrement à votre directeur général que 40% des bureaux sont occupés, et que vous, dans l'instant de raison qui suit, vous lui dites combien coûtent ses loyers et combien lui coûtent ses bureaux, c'est vrai qu'il va vous pousser à une certaine rationalisation. Alors, deux solutions. Soit vous faites revenir tout le monde pour améliorer votre ratio de fréquentation, soit vous ajustez votre KPI de fréquentation.
Donc, c'est plus dans l'air du temps de faire revenir tout le monde, de toute manière.
Je pense que c'est devenu maintenant quand même, je dirais, un droit acquis, même si ce terme ne me plaît pas. Mais c'est vrai que, si vous voulez, Jean-Marie en parlait à l'instant, en termes d'attractivité, aujourd'hui, si vous ne proposez pas du télétravail à vos collaborateurs, vous allez avoir du mal à être attractif. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont utiliser leurs 2 ou 3 jours. On voit en moyenne, aujourd'hui, c'est plutôt 2 jours de
télétravail. Oui, en fait, il faut qu'ils aient le choix.
S'ils n'ont pas le choix, ils choisiront une entreprise où il y a le choix. Et comme, on ne sait pas comment est le marché de l'emploi aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en termes d'attractivité, vous n'allez pas revenir sur le télétravail. Par contre, je ne pense pas que les 5 jours de télétravail qu'on a vu fleurir à une époque ont une pérennité pour eux.
Ouais, ça c'est sûr. Jean-Marie, près de 50% des entreprises prévoient de réduire leur surface. Ça sort de ce baromètre. C'est ce que nous dit ce baromètre. Est-ce que ça remet en cause la valeur, justement, des actifs tertiaires, selon vous?
Alors, n'en déplaise aux Cassandres, le bureau n'est pas mort.
Non.
Le bureau continue de se transformer. Mais il s'est toujours transformé, effectivement, au gré d'évolutions de mode ou même de tendances un peu plus profondes dans les aménagements et la façon de collaborer.
Après, vous n'allez pas me dire le contraire. Hein.
Non, c'est un constat. C'est un constat, c'est-à-dire que ce que tout le monde nous dit, c'est moins de bureaux, certes, mais mieux de bureaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mieux de bureaux? Ça, c'est vraiment le sujet et qui est pas mal exploré, d'ailleurs, dans le baromètre. Eh ben, ce qu'on voit, c'est déjà, premièrement, la centralité. Comment je peux renforcer ma présence à côté d'un hub de transport, notamment, si ce n'était pas déjà le cas. Et le meilleur symptôme de ça, c'est le fait que les taux de vacances de Paris, actuellement, sont vraiment planchés, et que quand vous cherchez 2, 3 ou 4 000 mètres carrés actuellement, dans un quartier bien précis, ça va être très, très difficile. Donc, le marché...
Vous pensez à quel quartier, par exemple, pour donner quelques...
Tout le UCA, et on est en...
Quartier centre d'affaires,
quartier de centre
pour nos auditeurs.
Voilà. Et c'est même en train d'aller dans des quartiers un peu plus exotiques pour le business, c'est-à-dire le 11e, et parfois même au-delà. Donc ça, aujourd'hui, il y a une saturation de la demande et qui est vraiment représentative de cette volonté de la santé.
Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, à ce jour, on trouve rien. Quand on est une entreprise...
Ça va prendre du temps. Alors, ce qui est vrai à Paris QCA est vrai de façon concentrique, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est une concentration de la demande vers plus de centralité. Alors, chacun a sa propre centralité. Tout le monde ne veut pas être sur les Champs-Élysées. Néanmoins, quand on est, par exemple, on prend souvent cet archétype de Vélizy, quand on est à Vélizy, aller à Issy-les-Moulineaux, c'est une forme de centralité pour aller attirer des talents. Et puis même, tout simplement, être beaucoup plus en connexion avec son écosystème, avec ses prestataires, avec ses clients, etc. Donc, le mieux de bureau, c'est d'abord la centralité. Le deuxième, qui est très important, c'est la qualité même des immeubles. On veut des immeubles qui soient mieux gérés, des immeubles qui soient plus vertueux.
Et donc, ça, mieux gérés, pourquoi? Plus clé en main, plus...
Avec plus de services.
De services, c'est service, ça. Hein. C'est une demande des collaborateurs, en fait. Ça fait partie des nouveaux usages, des nouvelles attentes.
Oui, alors les services, ça recoupe la centralité. C'est-à-dire qu'il y a les services qu'un immeuble peut vous proposer.
Ouais.
Mais du fait d'être plus central, vous avez accès généralement autour de vous aussi à
plus d'aménités. Plus de choses autour,
Et ça change pas mal la donne.
Donc, alors, vous n'avez pas juste répondu à ma question. Est-ce que ça remet en cause justement cette valeur de ces actifs tertiaires, la valeur des actifs tertiaires?
Alors, justement, non. Parce que
certains, en fonction des peut-être des.
Alors justement, c'est pour ça que je parlais de cette approche un peu concentrique, c'est-à-dire à Paris, ça se valorise plutôt. Pourquoi? Parce que cette tension amène en fait une augmentation des loyers.
Ouais.
Les loyers prime aujourd'hui sont à des niveaux historiquement élevés.
Donc Paris intramuros, on parle.
Paris intramuros. Ouais. Et par contre, effectivement, si on prend l'autre extrémité de certains quartiers sur lesquels c'est un peu plus difficile, et notamment la seconde couronne, là, la question, elle n'est pas tant celle du loyer ou de la valorisation. Là, la question, ça va être davantage quel est le projet d'après.
Oui. Justement, j'aimerais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, revenir peut-être un peu plus en détail. On appelle ça le flex-office, hein, c'est ça. C'est cette tendance dont on parle beaucoup. Donc, c'est, le flex-office, c'est quoi? C'est le télétravail, vous l'avez dit, hein, 2 jours par semaine, grosso modo. Et c'est arrivé dans un bureau où il y a un open space, où on n'a plus un bureau attitré. C'est quoi le flex-office qui
Le flex-office, c'est en fait, vous n'avez plus de bureau attitré à votre nom. Je dirais, c'est vous arrivez et soit vous réservez votre place, certains entreprises le font, soit on est dans du surbooking. C'est-à-dire que le collaborateur n'a pas une place attitrée, comme c'était le cas, je dirais, avant 2019, pour quasiment toutes les entreprises.
Et là, 70%, c'est dans le baromètre encore, hein, 70% des entreprises ont adopté le flex-office.
C'était dans le nouveau contrat social. À partir du moment où le collaborateur dit « je voudrais passer, allez, en moyenne 2 jours de télétravail, donc de travailler 2 jours de télétravail chez moi », l'entreprise, en contrepartie, disait « oui, mais bon, ces 2 jours, je ne vais pas te réserver un bureau ». Parce que ça veut dire que ça va être un bureau qui va être vide pendant 2 jours, mathématiquement. Malgré ça, aujourd'hui, on est quand même à entre 40 et 50% de taux de remplissage.
Donc, il n'y a pas d'embouteillage, j'ai envie de dire, certains jours.
C'était le risque. Mais il faut dire qu'on est parti aussi à des taux au départ. C'est-à-dire que quand vous aviez 10 collaborateurs, on a commencé par leur offrir 9 postes de travail. Puis après, c'est passé à 8. Et là, aujourd'hui, on arrive à 6. Malgré le fait qu'on arrive à 6, c'est-à-dire que vous avez 10 collaborateurs et vous avez 6 postes de travail attitrés. Il faut aussi se donner la vision globale. Il y a 6 postes de travail, 6 bureaux, comme on disait autrefois, mais de l'autre côté, vous avez des salles de réunion. Et comme dans le mieux, on a rajouté des salles de réunion, on a rajouté ce qu'on appelle des phone box, des endroits où vous pouvez téléphoner, des endroits où vous pouvez avoir des échanges conviviaux, ce qu'on appelle les espaces de convivialité. En fait, aujourd'hui, on arrive quasiment à, vous avez 10 collaborateurs, il y a 10 possibilités de posture de travail dans le bureau. Mais comme tous les collaborateurs ne viennent pas, parce qu'il y en a qui sont en télétravail, on arrive encore à une sous-occupation, ce qui nous amène aujourd'hui, ce qui amène tous les acteurs immobiliers à dire, oui, on va continuer à rationaliser nos surfaces, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas pleines. Et le bureau, c'est comme, ça devient quasiment comme le commerce. Vous ne rentrez pas dans un restaurant vide. Vous ne rentrez pas dans un café vide. Et ben, si votre bureau est vide, si les collaborateurs se disent « mais il n'y a personne aujourd'hui », est-ce qu'ils vont revenir?
Oui, donc, ça donne pas envie.
Il faut que ça soit chaleureux. Il faut que ça soit chaleureux, donc il y ait du monde. Donc il faut qu'on trouve, et c'est pour ça, et je suis entièrement d'accord avec Jean-Marie, il faut qu'il y ait des services et il faut que les bailleurs nous offrent ces services. Parce que nous, on n'est pas des professionnels, nous, les directeurs immobiliers. On n'est pas des professionnels immobiliers au sens bailleurs, promoteurs et ainsi de suite. Il faut nous aider à avoir des services à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'immeuble, comme tu le disais, Jean-Marie, soit à l'intérieur aussi de nous aider à animer nos bureaux pour que les collaborateurs aient ce plus qui fait que, aujourd'hui, je vais accepter de faire, je ne sais pas, 2 fois une demi-heure de trajet, retour. On sait bien qu'en 2019, le temps moyen de trajet à Paris était de plus d'une heure.
En 2019.
Et donc, c'est vrai que ça fait réfléchir aujourd'hui. Donc, le flex-office, c'est tout simplement, vous prenez les postures de travail qui sont disponibles, quitte à ce que vous les réserviez à l'avance.
Et est-ce que le risque n'est pas d'envoyer un mauvais signal aux collaborateurs? J'entends, vous êtes totalement remplaçable. C'est vrai que, plus personne n'a son bureau attitré avec la petite photo de son chien dans un cadre. Est-ce que c'est pas ça? Enfin, est-ce que c'est déjà remonté à vos oreilles, des dirigeants d'entreprise qui avaient un peu peur d'envoyer ce message-là?
Je pense que, en tout cas, ce que moi j'ai pu constater depuis 2019, c'est que ceux qui étaient les plus réticents au télétravail en 2019, c'est ce qu'on appelle la couche managériale.
Ouais.
Même le middle management, pas forcément le top management, mais le middle management qui avait beaucoup de mal à donner du télétravail, à faire confiance en se disant s'ils sont chez eux, ils vont travailler devant la télé, ce ne sera pas du télétravail. Et puis, les jeunes qui demandaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de télétravail avant parce que, correspondaient peut-être plus à leur rythme d'étudiant et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ceux qui adoptent le télétravail à fond, c'est le middle management, qui ont trouvé un certain confort pendant le Covid.
Devant la télé.
Soit devant la télé, soit dans leur maison, parce que le middle management a souvent la possibilité d'avoir une maison de campagne ou une maison où aller se faire des week-ends plus prolongés. Et les plus jeunes, je veux dire ceux qui rentrent, ont vu les limites du télétravail, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne au bureau, donc comment eux, ils vont apprendre? Et eux demandent 2 jours de télétravail, mais ils ne les prennent pas.
Mmh. Est-ce que...
on voit... Non, je fais nous, juste pour rebondir. Mmh. Ce qu'on a pas mal vu, c'est une corrélation directe à l'âge des enfants.
Oui.
Parce que
y a en bas âge, j'imagine plus de demandeurs de télétravail.
À l'école notamment, c'est une période intense.
Je confirme, oui. Et c'est vrai, et c'est ce que vous voyez en tout cas chez vous.
Oui, on le voit, on le constate.
Et alors, question, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'évolution professionnelle. Est-ce que c'est compatible avec 2-3 jours de travail? Parce que c'est un peu le retour qu'on a depuis 2-3 ans. Exactement.
Ça dépend de la mentalité des entreprises, de la mentalité des managers. C'est une transformation qui est en train de se faire.
Ouais.
On n'en voit pas encore toutes les conséquences.
Non.
Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Frédéric. C'est, quand bien même ça ne soit pas un acquis social au sens strict du terme, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour parce qu'aujourd'hui, 70%, alors je pense que c'est des grandes entreprises, sont passées au flex.
Oui.
Parce que je pense que 99% des projets d'aménagement sont des projets au flex.
Oui.
Il n'y aura pas de retour en arrière pour une simple et bonne raison. C'est que, à moins de vouloir faire un plan social, faire venir les gens au travail de façon obligatoire, ça ne marche plus et ça nécessiterait d'augmenter en fait ces coûts immobiliers qui sont, je le rappelle, les deuxièmes coûts de dépenses d'une entreprise et de les faire augmenter de façon significative de 20 ou 30%. Donc, moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui pourraient assumer ce genre de retour en arrière. Donc, la question, c'est plutôt... comment on embrasse le mouvement et comment on peut tous... et l'ADI y participe d'ailleurs.
Et comment adapter le patrimoine aussi.
Alors, adapter le patrimoine, bien évidemment, mais avant ça, déjà, faire vivre l'entreprise.
Mmh.
L'animation est un vrai sujet et on a beaucoup décrié les dernières années les initiatives autour du chef happiness officer.
Oui.
Et je peux comprendre pourquoi, mais aujourd'hui, il y a un enjeu d'animation qui n'est pas forcément formalisé, pas forcément structuré, souvent... donné au middle management sans forcément beaucoup de moyens, mais qui, à mon sens, est un enjeu central parce qu'on parlait rapidement de l'engagement, qui est une méga tendance énorme et qui peut s'accentuer à cause de dérives de télétravail. Mais c'est ça le sujet. La performance d'une entreprise, je pense, demain, dépendra du niveau d'engagement qu'elle sera capable de mettre en œuvre. Nous, on travaille beaucoup sur le sujet, je finis là, cet aparté, avec The Boson Project, sur la question de l'engagement. Qu'est-ce qui le facilite? Mais commençons déjà par se poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer dans nos entreprises?
Il est clair aujourd'hui que le flex office n'est que... un outil à la disposition du directeur immobilier pour adapter les surfaces et adapter l'aménagement de l'entreprise. Mais le fond du sujet que pose le télétravail, c'est clairement aujourd'hui comment l'entreprise veut manager ses collaborateurs. Est-ce que c'est à la vue, comme on faisait avant 2019, c'est-à-dire que je vois mes collaborateurs, donc je vois qu'ils travaillent, ou est-ce que c'est maintenant au résultat?
Et ça dépend du chef.
Et ça va dépendre totalement du management et pas forcément le top management de l'entreprise.
Ouais.
C'est vous n'allez pas manager une équipe de commerciaux comme vous allez manager une équipe d'ingénieurs, comme une équipe
de développeurs
et ainsi de suite. Moi, je l'ai vu dans les années 2005, de 2010, BMW, tous ces ingénieurs qui étaient derrière des ordinateurs en 2005-2010 étaient chez eux. C'était totalement inconcevable chez les fabricants en France où on construisait l'un à Vélizy, l'autre à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un type de management que vous avez adapté. Et nous, directeurs immobiliers là, on doit, avec toute la chaîne immobilière, dont les bailleurs comme Jean-Marie, après essayer de trouver le meilleur cadre pour les collaborateurs et leur manager. Et ça va être très, très, très modulaire. Et c'est là où on le voit, même dans les tendances du baromètre, énormément de flexibilité pour pouvoir adapter au mieux nos espaces. Quoi.
Alors justement, c'est ce que je disais, cette flexibilité impacte le patrimoine. Comment justement on l'adapte, ce patrimoine? Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup. L'obsolescence, les bureaux vacants, voilà. Quels sont, c'est les grands enjeux des années à venir.
C'est ça, c'est... quels sont les enjeux de nos clients? C'est la question qu'on se pose depuis le Covid. On se l'est toujours posé, mais de façon accélérée, renforcée depuis le Covid, parce que nos clients, vous connaissez l'expression VUCA, sont de plus en plus exposés à plein de chocs et de volatilité d'incertitude, etc. Et donc, c'est la question qu'on se pose. La question de la flexibilité est centrale. Qu'est-ce que ça veut dire déjà la flexibilité ? Parce qu'il y a différentes façons de l'aborder. Est-ce qu'on parle de flexibilité au sens je veux plus ou moins de surface ? Est-ce que je veux pouvoir ? Est-ce qu'on parle de flexibilité contractuelle ? Bon, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, pousser les murs quand de l'autre côté du mur, il y a d'autres
locataires,
c'est un petit peu difficile. Donc nous, on y a répondu. Alors pour prendre un exemple sur la flexibilité contractuelle. On a, comme je le disais, un certain nombre de clients chez nous qui sont des PME, dont on est allé interviewer les dirigeants pour comprendre réellement ce dont ils ont besoin. Et beaucoup de nombreuses fois est revenue l'expression « le problème, c'est que le bail 369, ouais. il est rigide ». Alors, on a creusé et on s'est dit « pourquoi ils nous disent ça ?» Parce qu'au final, c'est quand même un contrat très flexible dans ce qu'on veut, on peut écrire à l'intérieur. Donc, on a creusé et on s'est rendu compte que la question, elle n'était pas la rigidité du bail, elle était la rigidité des bailleurs dans un marché qui était à leur main à l'époque. Bon, ça, on peut le regretter, mais ce sont les lois du marché. Plus sérieusement, ce qu'on a voulu mettre en place quand on a écouté cette demande, c'est de se dire, OK, comment vous raisonnez, vous, en tant que dirigeant d'entreprise ? Et ce qui est ressorti, c'est, en fait, nous, on loupe les dates de sortie parce que 369, ça veut dire 1er juillet 2024, je rajoute 3, etc. 1er juillet 2027, j'ai oublié, j'ai personne pour l'écrire, etc. Donc, ça n'a aucune réalité pour un entrepreneur. Donc, on a créé un bail qu'on appelle la bail agile et on a renversé, en fait, la logique en se disant, non, il faut qu'on raisonne non pas en date fixe, mais en visibilité, c'est-à-dire en délai, en carnet de commandes. Un entrepreneur,
c'est ça.
Alors c'est vrai plutôt pour les petites et moyennes entreprises, mais c'est est-ce que j'ai 6 mois de visibilité, 9 mois de visibilité, 12 mois. Et donc on a créé un bail, certes commercial, mais qui respecte cette logique en disant, en fait, à tout moment vous posez votre préavis, et en fonction de votre visibilité, est-ce que c'est 6 mois, 9 mois ou 12 mois, vous avez des avantages.
Et vous, vous y retrouvez ? C'est...
Nous, on représente les intérêts d'investisseurs tiers. Donc, bien évidemment, quand on fait de l'ingénierie juridico-financière pour sortir un nouveau produit comme ça, c'est un produit qui se doit d'être équilibré et où tout le monde y trouve son compte. Et aujourd'hui, c'est une innovation. Donc, forcément, ça ne s'adresse pas à tous les publics, comme bien je sûr. Le disais. Aujourd'hui, on a signé pour 20 000 mètres carrés de bois agile. Donc, ça marche.
Où ça dans...
alors 20 000 mètres carrés dispersés sur...
Oui, j'imagine, mais 17, où ça
un peu partout. Alors, effectivement, compte tenu du contexte, on le propose assez peu dans Paris Centre.
Oui, c'est ça.
Mais on l'a partout en première, deuxième couronne. Et c'est quelque chose qui marche.
Et vous savez, les entreprises, leur unique objet, c'est de se sécuriser sur leur continuité d'activité. Et à partir du moment où vous lui offrez la possibilité de rester... et d'avoir la main de son activité, il n'a pas de raison de partir. Et donc, je trouve que c'est un très bon produit parce que, en fait, ce n'est pas du style j'ai une break clause, je l'utilise pas. Et donc, je me pose la question de savoir est-ce que je vais arrêter ou pas arrêter mon activité ici pour la mettre ailleurs. Non, c'est toi qui vas décider. Donc, si tu n'as pas de volonté de changer, tu ne changeras pas. Et ça, je pense que plus vous donnez de flexibilité, plus les gens vont rester sur place. C'est vraiment l'effet inverse que de ça, parce que les break clause, ça vous oblige à vous décider et de vous dire est-ce que je vais rester ou est-ce que je ne vais pas rester, parce que la prochaine fois c'est dans 3 ans. Alors que là vous avez
bien sûr, il y a plus de...
Mais les entreprises, et c'est une des convictions qu'on a je dirais dans l'association des directeurs immobiliers, une entreprise elle n'a pas besoin d'être propriétaire de son parc. Si elle l'est, c'est uniquement pour pouvoir sécuriser sa continuité d'activité.
Et il y en a de moins en moins, c'est ce qu'on voit.
Alors, de moins en moins dans les bureaux, puisque c'est vrai que les bureaux se sont énormément financiarisés. On le voit avec la logistique. De plus en plus, les locaux logistiques deviennent des locaux que les entreprises louent. Restent les locaux d'activité. Bon, c'est l'essentiel du parc tertiaire, quasiment, du parc immobilier en France. Mais pour le faire, je trouve que c'est une très belle innovation que de dire, en fait, on va changer la charge de la preuve.
On va moderniser.
C'est à toi de le décider. Et on le constate. Moi, je l'ai vu plusieurs fois avec vous. En fait, les baux flexibles, ce sont les baux sur lesquels les gens vont rester. C'est là où...
Ouais, plus que votre voiture peut aller à 250 km que voilà. Vous y allez.
Exactement.
Mais... Alors, ça dépend du conducteur. Mais quand on est Verstappen, on y va. On va terminer parce que le temps file. Les critères de choix des bureaux de demain. Alors, il y en a trois identifiés dans le baromètre. Est-ce que vous pouvez
nous
les rappeler?
Il y en a pas. Le premier, bah, on l'a répété assez souvent, c'est l'accessibilité.
Donc ça c'est le premier. Hein.
Ça, c'est le premier. Mais c'est marrant, c'est, en 2019, c'était le second, c'était le coût.
Ouais.
Le coût. Et en 2022, le second, qui est passé en troisième, était, je dirais, l'impact environnemental, la durabilité.
Alors ça, il faudra refaire dans trois ans. Je pense que celui-là, il va se...
Non, pas forcément.
Pas forcément. Je dirais, l'accessibilité fait partie de la responsabilité sociétale des entreprises. Si vous obligez vos collaborateurs à venir dans vos locaux avec une voiture, pas un transport en commun, ainsi de suite, ça y contribue. Mais c'est vrai que de plus en plus, nous, les utilisateurs, on considère que le côté environnemental, tout ce qui est environnemental du bâtiment, je dirais, est naturel, est un peu à la charge du bailleur. On se défausse un peu en disant oui, les immeubles dans lesquels on est locataire doivent répondre à tous les critères. Après, charge aussi à nous de faire le nécessaire, puisque c'est vrai qu'aussi l'occupant a un impact énergétique très important. On le chiffre entre 30 à 40 % les mauvais comportements dans un immeuble.
Et c'est dur à modifier des comportements.
C'est sûr. C'est vrai qu'il faut une crise énergétique pour dire à nos collaborateurs, ça sera 19 cet hiver. L'hiver suivant, ça a été un peu plus compliqué de maintenir le 19. On est remonté à 22. En moyenne. Mais c'est vrai que le premier des critères, c'est l'accessibilité.
Avec l'élection de Trump, ça ne va pas arranger les choses.
Peut-être que ça va nous braquer les Français encore plus. Mais c'est vrai, dans l'ordre, vous avez raison, le premier, c'est l'accessibilité. Ouais. Le second, c'est le coût. Parce qu'il y a quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, un effet de rationalisation de nos mètres carrés. Et face à cette sous-fréquentation de beaucoup de nos immeubles, il faut réagir. Mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, le mardi, vous avez 60, 70, quelquefois 80% de taux de remplissage. Il vous faut avoir quand même des locaux pour que tout le monde rentre. Le vendredi, c'est très compliqué.
D'ailleurs, il y a des entreprises qui obligent à ne pas se mettre en télétravail le vendredi.
Alors, il y a des
jours imposés.
Il y a des jours imposés, il y a des directions qui font leur comité de direction le vendredi matin pour les faire revenir, ainsi de suite. Il y a ça, ou il y en a d'autres qui ferment le vendredi. Donc le coût, et puis en trois, oui, quand même, il y a toujours
l'empreinte environnementale.
Mais oui, pour rebondir sur l'empreinte environnementale, je pense que c'est un critère qui ne doit pas être optionnel. On a une responsabilité, nous en tant que bailleur tout particulièrement, mais je pense que c'est un partenariat avec les utilisateurs. Et j'aimerais dire, c'est une opportunité que notre industrie soit locale et donc finalement assez peu sensible à la tornade Trump pour continuer au mieux notre voie. On ne peut pas faire de miracle, ça c'est certain. On ne peut pas rendre l'intégralité de nos parcs immobiliers verts et vertueux à 100% du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. En revanche, garder, conserver une trajectoire, c'est essentiel. Et on doit porter cette ambition tous ensemble en tant qu'industrie, parce que c'est un principe de solidarité, notamment vis-à-vis de la génération d'après. Ça, c'est un point essentiel, ne pas en faire une option. Et puis, il y a un deuxième aspect, il ne faut pas l'oublier. Certes, on peut améliorer les immeubles, mais on peut aussi, comme tu le disais, faire évoluer les façons de faire. Parce que beaucoup de choses dépendent du comportement des gens, de leurs réflexes sur le tri sélectif, pour en prendre qu'un exemple. Mais on réfléchit aussi à la chronotopie, je crois, qui est un terme à la mode, sur la façon dont on peut utiliser davantage intensément aussi les immeubles, qui est une des solutions, en tout cas, à l'attirail de la frugalité.
Et oui, l'usage des immeubles, grand débat aussi. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour cette émission. Et puis nous, on se retrouve dans une semaine pour un tout nouveau numéro de Carrément Immo. À très vite.